Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Ils étaient 12, 12 salopards selon les commentaires de fans de football que j'ai pu lire sur Twitter lundi dernier. 12 clubs de foot qui ont décidé de lancer une Super League regroupant 20 des meilleurs clubs européens. Ils sont accusés d'avoir commis un crime contre le football. Leur rébellion aura duré 48 heures chrono. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au coup de force raté des champions européens du ballon rond.
C'est une révolution dans le monde du football. 12 des plus grands clubs européens ont décidé de créer leur propre compétition et annoncent ne plus vouloir participer à la Ligue des Champions, l'épreuve européenne gérée par l'UEFA.
Quindi ragazzi, è ufficiale. La Juventus insieme a Real Madrid, Torino, 19 aprile 2021, Juventus Football Club, la società Juventus annuncia la sottoscrizione.
I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend, you know, you'll never walk alone, the people's club, the fans' club.
C'est peu dire que le projet de création d'une Super League européenne concurrente de la Ligue des Champions a provoqué un électrochoc dans le monde du ballon rond, en France comme en Espagne ou en Angleterre, où l'ex-joueur Gary Neville s'est dit sur la chaîne Sky complètement dégoûté en tant que fan de Manchester United depuis ses 14 ans. Une tornade évoque la presse italienne, une déclaration de guerre contre l'UEFA et sa Ligue des Champions. Mais en 48 heures, la Super League de football a fait naufrage. Les 6 clubs anglais, la moitié de l'effectif a tourné kazakh face à la fronde des supporters, à l'image de ceux de Chelsea, qui exprimaient mardi soir à leur façon tout l'amour qu'ils avaient pour ce projet de Super League. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ils ne parlent pas de phoque. Et le coup de grâce est venu d'un entraîneur concerné au premier plan, l'Espagnol Pep Guardiola, le coach de Manchester City.
A sport. It's not a sport when the relation between the effort and the success, the effort and reward don't exist.
Le sport n'est pas un sport quand la relation entre l'effort et la récompense n'existe pas.
It's not a sport that it doesn't matter if you lose and it's not fair.
Ce n'est plus un sport si la défaite n'a plus d'importance. Il ne faut pas que le succès ne soit garanti que pour quelques clubs.
Already guaranteed for just for few clubs.
Nous avons fait une erreur et nous nous excusons pour cela, ont reconnu très vite les dirigeants d'Arsenal dans un communiqué. Les Anglais partis, le projet de Super League n'existe plus sans les clubs anglais, a reconnu l'entourage des Agnelli à l'AFP, alors qu'à leur tour, l'Inter de Milan et l'Atlético Madrid abandonnaient la Super League. L'action de la Juventus de Turin, qui avait bondi de près de 18% lundi à la Bourse de Milan, perdait mercredi midi plus de 12%. Bonjour David Barou.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes rédacteur en chef aux Échos, vous vous intéressez notamment à l'économie du football. On va rappeler d'abord en quoi consistait ce projet.
Alors sur le papier, l'idée c'était de créer une compétition aux yeux de ses promoteurs qui serait plus attractive avec plus de grandes affiches plus tôt dans la saison. Pas avoir toute cette phase de poule actuelle dans la Ligue des Champions qui nous emmène en automne et au début de l'hiver et qui est souvent avec des petites affiches, pas forcément des grands chocs. Là, l'idée c'était de réunir en 2 poules de 10 des très grands clubs essentiellement, 15 clubs qui auraient été les 15 plus grands d'Europe qualifiés automatiquement tous les ans, plus 5 clubs qualifiés au mérite, un feuilleton toutes les semaines des grandes affiches et à l'issue de ce mini-championnat, les meilleures équipes auraient été qualifiées soit directement, soit via des matchs en confrontation directe à une phase finale avec des matchs à élimination quasi directe, c'est-à-dire des matchs aller-retour comme on a connu depuis toujours en Europe. L'idée, c'était de rendre le spectacle beaucoup plus intéressant, beaucoup plus tôt dans la saison.
L'annonce officielle de cette Super League est sortie dimanche à minuit, juste avant que l'UEFA ne présente sa propre réforme de la Ligue des Champions, qui va passer en 2024 de 32 à 36 équipes. C'est une compétition élargie. On peut s'étonner du télescopage entre ces deux annonces ?
En fait, les promoteurs de ce projet travaillent sur cette Super League depuis longtemps. Il y a toujours eu un rapport de force entre ce qu'on a appelé historiquement le G14, les 14 plus grandes équipes historiques, et l'UEFA. Il y a toujours eu une volonté de la part de ces équipes de réduire deux choses. Un, l'aléa sportif, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir l'assurance d'être qualifiés tous les ans pour la compétition européenne. Et dans la pratique, c'est pas le cas. Et tous les ans, il y a un de ces grands clubs qui trébuche et qui est confronté à une forme d'accident industriel. Cette année, ça pourrait être la Juventus de Turin, par exemple. Elle a gagné, je crois, pratiquement 9 des 10 dernières fois le championnat d'Italie, ce qui lui donne le droit d'être qualifié pour la Ligue des Champions. Mais cette année, elle risque de terminer 4e ou 5e du championnat italien. Et si elle termine 5e, elle ne sera pas qualifiée pour la Ligue des Champions. Et comme elle a été éliminée de la Coupe d'Europe cette année de manière prématurée, il ne participerait pas. Donc l'aléa sportif aujourd'hui inquiète trop ces gros clubs qui ont des charges gigantesques. Et donc ils veulent réduire cet aléa sportif. Et depuis des années, ils ont engagé un bras de fer avec l'UEFA pour faire en sorte de maximiser leurs chances d'être retenus. Souvenez-vous, historiquement, l'année où, au début des années 90, quand l'Olympique de Marseille gagne la Champions League de l'époque, les seules équipes qui sont qualifiées sont celles qui sont véritablement championnes dans leur pays domestique. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez tous les ans 4 clubs italiens, 4 clubs allemands, des clubs italiens qualifiés d'office, des clubs allemands, des clubs anglais. Voilà. Donc l'idée, c'est réduire l'aléa sportif pour faire en sorte qu'il y ait tous les ans au maximum ces grandes équipes. Ça serait ça l'objectif de cette Super League. L'autre chose que depuis toujours ces grandes équipes cherchent à faire évoluer, c'est la répartition des droits. En gros, ils trouvent qu'il y a trop de monde autour de la table et qu'on redistribue trop. Le système est un peu trop socialiste à leurs yeux. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est que les grandes équipes qui génèrent le plus d'audience touchent une part plus justifiée, selon eux, des droits audiovisuels. Donc depuis tout le temps, ils se battent avec l'UEFA pour faire évoluer le format de la Ligue des Champions. Et cette année, et c'est pour ça que les calendriers se télescopent un tout petit peu, l'UEFA présentait en ce début de semaine sa future réforme de la Ligue des Champions qui doit rentrer en œuvre en 2024. Ça prend un peu de temps parce que c'est toute une mécanique. Une fois que le nouveau format a été décidé, il faut que l'UEFA vende les droits à tous les diffuseurs domestiques dans tous les pays. Donc ça se déclenche pas d'une année sur l'autre. Une fois qu'on connaît le format, les chaînes peuvent payer les droits. Et donc en gros, au moment où l'UEFA figeait sa nouvelle Ligue des Champions, cette nouvelle réforme, les promoteurs de cette Super League arrivent en disant ce nouveau format que vous nous proposez ne nous satisfait pas, il ne réduit pas assez l'aléa sportif, il n'est pas assez financièrement intéressant, le spectacle n'est pas à la hauteur, les jeunes vont se désintéresser du football. Donc c'est pour ça qu'au moment où l'UEFA fait valider son projet, en fait, en gros, ils arrivent avec leur contre-projet.
Supprimer l'aléa sportif, c'est aussi réduire l'aléa financier. La Super League, c'était l'assurance d'empocher chaque année entre 200 et 250 millions d'euros rien que sur cette compétition, alors que le vainqueur de la Ligue des Champions gagne au mieux 83 millions de dotations de la part de l'UEFA. On voyait l'intérêt pécunier pour ces clubs. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est, David, que le projet n'a pas fait l'unanimité.
Alors en fait, ce projet a été déséquilibré, à mon avis, sur deux niveaux. Le premier, c'est que dès le départ, il ne devait pas y avoir 12 clubs, mais 15. Et les trois clubs qui manquent dans les membres fondateurs, le PSG, le Bayern de Munich et Dortmund. Et ces trois équipes-là ayant refusé de rejoindre ce projet dès le début, fait qu'il y avait un trou dans l'armure, c'est que l'Allemagne et la France n'étaient pas tout de suite associées à ce projet. Or, la France et l'Allemagne restent deux pays, c'est vraiment dans le top 5 des pays européens pour la génération de droits audiovisuels. Et sans ces deux pays, le projet ne pouvait pas se faire. La stratégie des 12 mercenaires, en quelque sorte, c'était de placer tout le monde devant un fait accompli, c'était d'avancer et de dire, une fois que le processus sera lancé, que ça sera installé, que tout le monde verra que ce projet est bon et qu'il est soutenu et que l'UEFA ne peut pas le bloquer, finalement, les Allemands et les Français reviendront autour de la table et s'installeront et le projet pourra être lancé. Mais il y avait quand même là une vraie faiblesse initiale dans le sens où ils ne présentaient pas un front uni. Et quand on part à la guerre, il faut partir avec toutes les troupes. Là, ils partaient avec les flancs très exposés. Ça, c'était la première faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est que ce projet était trop déséquilibré en faveur des Anglais. C'est-à-dire que sur les 12 clubs fondateurs, il y avait 6 clubs anglais. Et ça ne représente en rien les mérites sportifs, même historiques. Donc, les clubs anglais étaient surreprésentés, ce qui était inacceptable, je pense, pour les Allemands, ce qui était acceptable pour les Italiens parce que eux, on leur donnait un peu plus de place que ce qu'ils méritaient sur le terrain sportif. Ils avaient le droit à 3 équipes. Les Espagnols aussi, il y avait 3 équipes. Ils pouvaient s'en contenter. Mais pour les Allemands, n'avoir peut-être que 2 équipes, c'était insupportable. Pour les Français, une seule équipe et une deuxième via un rattrapage tous les ans, c'était aussi très limité. Donc, on avait un projet qui était trop déséquilibré en faveur des Anglais. Ça risquait de figer une situation en faveur des clubs anglais sur une très longue période. Et finalement, peut-être ce que les clubs anglais n'avaient pas prévu, c'est que la révolte viendrait de leur propre pays. C'est-à-dire que les 6 clubs anglais qui se sont mobilisés pour cette Super League, parmi ces clubs, il y a des clubs qui aujourd'hui ne sont pas au niveau sportif, ne méritent pas d'être tous les ans absolument dans cette compétition. Arsenal aujourd'hui, c'est plus une équipe de mid-tableau, plus une équipe qui joue l'Europa League que la Ligue des Champions. C'est pas une équipe très très performante. Tottenham aussi, qui fait partie de ses 12 membres fondateurs, est aujourd'hui en grande difficulté. Ils viennent de licencier leur entraîneur Mourinho. Ils ont changé 2 fois d'entraîneur en peu de temps. Donc, je pense qu'ils étaient aujourd'hui dans une situation trop faible. Et en plus, la révolte est venue d'Angleterre. Des petites équipes anglaises qui ne faisaient pas partie de ces 6 qui ont dit c'est un scandale. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait plus jamais la possibilité de participer à cette Super League car les 6 clubs vont tout truster. Et au sein même des 6 membres fondateurs, une partie de la base des fans a fini par s'opposer à ce projet en disant que ça ne reflétait pas les valeurs sportives des équipes au sein de Liverpool, au sein de Chelsea, au sein de Manchester United. On a vu des supporters, mais aussi des anciens joueurs, voire même des joueurs actuels ou des entraîneurs, émettre des réserves sur ce projet. À la base, les fans n'ont pas suivi, y compris au sein du pays le plus frondeur et au sein des équipes les plus intéressées par ce projet.
Les Anglais ont quitté le navire au milieu de la rade, hein, s'abordant ce projet, un Trafalgar pour ses initiateurs. David, les clubs rebelles à l'UEFA ont-ils sous-estimé l'ampleur de la contestation et notamment le poids des supporters ?
Je pense, et peut-être que ça s'explique par le fait que depuis des années, en fait, les équipes anglaises, et on le voit aussi en France maintenant, ont été vendues et rachetées souvent par des actionnaires qui ne sont pas des actionnaires nationaux. Sur les 6 clubs anglais, un seul est contrôlé par un actionnaire anglais, c'est Tottenham. Tous les autres sont contrôlés soit par des actionnaires américains, soit par un pays du Golfe. C'est peut-être pour les Américains des gens qui ont investi dans une vision purement financière ou dans une vision pour les pays du Golfe peut-être un peu géopolitique. Et finalement, ils sont éloignés, peut-être coupés de la base. Ils ne viennent pas de la culture du football local. Ils cherchent à valoriser un actif. Et les Américains sont en plus venus avec leur prisme et leur vision qui est celle des ligues fermées américaines dans lesquelles le sport génère énormément d'argent et tout est fait pour que les équipes soient aussi des machines à cash à gagner de l'argent. Alors qu'aujourd'hui en Europe, ce n'est pas le cas. En fait, le football génère beaucoup de recettes. Les clubs qu'on appelle les plus riches sont ceux qui dépensent le plus d'argent, qui ont les budgets les plus élevés. Mais en fait, le système est déséquilibré. C'est plus des machines à perdre de l'argent qu'à gagner des matchs régulièrement pour certaines de ces équipes. Il y a eu une inflation permanente sur les salaires. Il n'y a pas de salary cap. Il n'y a pas de contrôle des dépenses sur les salaires des joueurs. Il y a quelque chose qui a été mis en place qui s'appelle fair play financier pour éviter des déficits trop massifs, mais quand même, toutes ces équipes perdent trop d'argent. Le Real de Madrid vit au-dessus de ses moyens depuis des années. Le FC Barcelone aussi. C'est des équipes qui ont trop dépensé, qui n'ont pas toujours fait des transferts très judicieux. Dans le passé, ils ont été sauvés par le fisc espagnol qui plusieurs fois a passé l'éponge sur des dettes qu'avaient les clubs de football espagnol. Mais ce sont des clubs qui sont mal gérés, il faut le reconnaître. Et peut-être qu'en Angleterre, en plus, les actionnaires avaient une vision trop financière et pas assez sportive, et ils n'ont pas vu qu'ils allaient à l'encontre de leur base de supporters pour qui, effectivement, même une petite affiche mérite d'être jouée, et on le voit aujourd'hui en Coupe de France. Regardez, vous voyez une équipe d'amateurs qui est en demi-finale de la Coupe de France, même si statistiquement, on ne peut pas estimer que demain, une toute petite équipe a une vraie chance de gagner la Ligue des Champions, la possibilité existe, il y a une part de rêve, et donc même dans ces phases préliminaires, tous les ans, il y a une grande équipe qui trébuche face à une petite équipe. Il y a 2-3 ans, l'Ajax d'Amsterdam avait fait trembler le football européen. L'année dernière, l'Olympique lyonnais avait fait chuter Manchester City. Il y a quelques années, Monaco, avec de très jeunes joueurs, dont un certain Mbappé, avait aussi fait tomber Manchester City. L'aléa sportif, c'est ça qui donne le piment à ce sport et les fans sont prêts à le reconnaître. Peut-être qu'on ne participe pas tous les ans, mais en échange, on a un spectacle vivant, plein d'incertitudes. Et c'est ça qui rend le football intéressant et peut-être plus vivant que le tennis ou avant même Roland-Garros. Pratiquement tous les ans, on sait déjà que c'est Nadal qui va gagner.
Ouais, le Stade Rennais, hein, par exemple, qui n'a pas souvent joué les Coupes d'Europe, ils peuvent en témoigner, effectivement. Et on a vu comment les supporters s'étaient enflammés pour ce club breton. Dans l'histoire, il y a quand même deux grands perdants, Florentino Pérez du Real et Andrea Agnelli de la Juventus.
Ah bah, ils se sont cramés, ils se sont ridiculisés. On voit qu'ils sont partis à la guerre en étant mal préparés. Ils n'avaient pas assuré leurs arrières. Ils ont perdu la bataille de la communication, finalement, très rapidement. Et leurs arguments n'ont pas porté. Alors que franchement, en plus, sur le terrain juridique, leur chance, moi j'estime, n'était pas nulle du tout. Hein. L'idée de dire l'UEFA est un régulateur, il ne peut pas avoir le monopole de l'organisation, la création d'événements sportifs, qui est un de leurs arguments, en fait, n'est pas un argument nul. Il y a une jurisprudence qui est en train de se créer dans le monde du sport qui démontre qu'effectivement, des clubs privés ont le droit, des actionnaires privés ont le droit, dans plus en plus de sports, de créer leur propre compétition. Ça existe depuis des années dans le vélo. Le Tour de France n'appartient pas à l'Union Cycliste Internationale. Il appartient au groupe Amaury, qui est aussi l'éditeur de l'équipe. Dans la Formule 1, ce n'est pas la FIA, la Fédération Internationale Automobile, qui organise la F1. Elle édicte des règles de sécurité, une forme de contrôle. Mais la F1 appartient aujourd'hui à des actionnaires privés. Et on l'a vu dans le basket aussi aujourd'hui, où il y a une compétition de basket européenne qui est privée. Dans la natation, voilà. Donc, il existe des compétitions privées. Ils auraient pu aller se battre sur le terrain juridique pour fragiliser l'UEFA. Ils auraient peut-être dû commencer d'ailleurs par ça, par essayer de porter plainte contre l'UEFA en disant aujourd'hui, vous prétendez avoir le monopole de la création d'un spectacle sportif footballistique, bah vous avez tort. Peut-être qu'ils auraient dû commencer par ça et rétablir un pouvoir de force en mettant de leur côté la justice. On l'a vu, hein, ils ont saisi très très vite la justice espagnole parce que l'UEFA a menacé de sanctionner les équipes frondeuses et les joueurs de ces équipes. Ils ont saisi un juge espagnol qui, en référé, a dit « Avant d'avoir jugé sur le fond, il n'est pas possible d'interdire l'idée même qu'une compétition privée puisse être créée. » Et puis, il y a des précédents historiques. Hein. Souvenez-vous du fameux arrêt Bosman au début des années 90. À l'époque, l'UEFA à imposer des clauses dites de nationalité, pas le droit d'avoir en moyenne plus de 3 joueurs étrangers par équipe. Bosman avait porté plainte et c'est la Cour de justice, parce qu'on lui avait interdit un transfert en France, c'est la Cour de justice européenne qui a fini par trancher que c'était contraire à un des articles du traité de Rome qui permettait la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils se sont vraiment cramés, ils se sont ridiculisés. C'est-à-dire que si leur objectif n'était pas aujourd'hui même de lancer cette Super League, mais juste d'établir un rapport de force pour mieux négocier une réduction de l'aléa sportif et un meilleur partage en faveur des recettes télévisuelles, avec l'UEFA, aujourd'hui, ils sont dans une telle position de faiblesse qu'en fait, l'UEFA est aujourd'hui en position de force pour leur rabattre le caquet. Donc, Florentino Pérez, le patron du Real de Madrid, et Agnelli, qui est le président de la Juve, leur parole ne portera plus. Celui qui sort renforcé, finalement, c'est le patron du PSG, qui a pris la parole publiquement pour s'opposer à cette Super League, qui s'est rapproché de l'UEFA et de son président, et qui, lui, a marqué des points.
C'est vrai que lundi, à l'annonce de la composition de ce club de 12 champions européens du foot, la question était sur toutes les lèvres. Et ils sont où, les Parisiens ? Deux jours plus tard, le PSG, mais aussi le Bayern de Munich, sortent grandis de cette aventure ?
Je pense. Alors peut-être qu'il y avait de leur part une part de calcul. Peut-être qu'effectivement, ils ne voulaient pas monter au front, ils ne voulaient pas se prendre des balles perdues au début. Donc, ils ont laissé les autres essayer. Et peut-être que si le projet avait vu le jour, ils auraient fini par le rejoindre. Mais bon, aujourd'hui, c'est de leur faire un procès d'intention. Certains disent que de toute manière, le PSG, dont le Qatar est le propriétaire, ne pouvait pas prendre le risque à 2 ans de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar de se mettre à dos la FIFA. Alors peut-être qu'on peut faire une lecture politique. Peut-être qu'on peut dire qu'ils aiment juste le beau jeu, le sport. Je ne sais pas où il faut mettre le curseur, c'est sans doute un peu tout ça. En tout cas, ils ont pris une position de principe qu'ils ont assumée publiquement en disant qu'ils étaient contre cette Super League. Et incontestablement, aujourd'hui, ils sortent grandis de ce bras de fer qui s'est soldé en une déroute en un temps absolument record. Moi, je pensais que la bataille prendrait beaucoup plus de temps que ça, que les frondeurs étaient beaucoup plus unis. Finalement, le château de cartes s'est écroulé à une vitesse record.
Le château de cartes s'est écroulé face à la colère de l'UEFA. Au lendemain de son congrès réuni à Montreux en Suisse, la position du patron de la FIFA, la Fédération internationale de football, était particulièrement attendue. Gianni Infantino, qui a fermement désapprouvé la création de cette ligue fermée.
Some elect to go their own way, then they must live with the consequences of their choice. This means either you are in or you are out. You cannot be half in or half out.
Si vous partez, il faudra assumer les conséquences. Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors », a-t-il lancé après avoir apporté son soutien à l'UEFA, aux Ligues nationales, aux joueurs et aux fans. Le président de l'UEFA, Alexander Seferin, a lui eu des mots beaucoup plus durs, qualifiant les fondateurs de la Super League de serpents guidés par l'avidité. La Super League est une proposition honteuse, un crachat au visage de tous les amoureux du football. Il menaçait de bannir de toute compétition nationale et internationale ses clubs, mais aussi leurs joueurs. À quelques mois de l'Euro, la menace a fait mouche. Bonjour Alexandre Lacresse.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes avocat chez Fidal, spécialiste des questions de concurrence. C'est la victoire du foot contre le droit ?
Bah écoutez, c'est vrai que ces derniers jours ont été particulièrement animés. Hein. C'est l'annonce de la création de cette Super League. On l'a vu dans les réactions qui ont été assez courroucées, même véhémentes de la part de l'UEFA et de certaines fédérations. On voit bien que la menace était prise au sérieux et que les autres clubs, disons, les fédérations internationales, ont cru à la création de ce projet de Super League. Il faut dire que juridiquement, le droit était pour eux. Le droit européen en particulier leur permet effectivement de créer des compétitions concurrentes à la Ligue des Champions notamment, qui est évidemment la compétition la plus lucrative. Et notamment en se fondant sur des principes de libre circulation que l'on connaît bien, sur les principes de libre concurrence également, eh bien ils pouvaient tout à fait envisager de créer cette ligue fermée sous la forme d'une entreprise, hein, tout simplement, avec la délivrance de licences, comme ça se fait notamment de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. La réaction ensuite des fédérations particulièrement, donc on l'a dit, véhémente, ben, se justifie parce que en voyant partir comme cela 12, peut-être 15, voire 20 clubs dans cette Super League, c'était le modèle de la Ligue des Champions qui s'écroulait en réalité, hein, donc le modèle économique, puisque derrière ces grands championnats européens, ce sont évidemment des millions d'euros qui sont en jeu sous forme de droits de retransmission télévisée. Et c'est cette manne, cette rente finalement, que souhaitaient capter ces clubs-là. Alors, le droit était pour eux. C'est vrai que, notamment, on le sait, le grand public l'a découvert en 1995, hein, avec l'arrêt Bosman. Le droit de la concurrence, notamment, permettait à ces clubs de créer une ligue dissidente. Et ce, sans risquer ou sans craindre, en tout cas, que le projet ou le principe même du projet soit contesté.
En revanche, l'UEFA a sorti, j'ai envie de dire, le bazooka, avec cette menace, hein, de bannir les joueurs et les clubs de ses propres compétitions, rejoint d'ailleurs par la FIFA. Ça, c'était l'arme atomique dont disposaient les instances internationales du foot.
Disons que c'est un peu effectivement comme l'arme atomique, ça repose sur le principe de la dissuasion. Parce que si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que... Alors, le principe, c'est que l'UEFA est, en tant qu'entité organisatrice de ces compétitions, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, voire l'Euro ou la Ligue des Nations pour les sélections nationales, est maîtresse, effectivement, des règles d'organisation de ces compétitions, et notamment des règles d'accès et de participation. Et donc, si l'UEFA s'en était tenue à ses seules règles à elle, on peut tout à fait certainement envisager qu'elle ait pu prendre la décision d'exclure les clubs en question de ses propres compétitions. Quant aux fédérations internationales, aux autres fédérations, notamment la FIFA, la question était peut-être un peu plus lointaine, mais comme je l'ai dit, c'est un peu l'arme atomique. La difficulté, disons, au plan juridique, hein, pour l'UEFA, c'est qu'elle ne vit pas dans un monde isolé des autres corps de règles, et notamment, je le disais, les règles de la libre circulation, les règles de la concurrence, lui aurait certainement interdit d'appliquer une mesure aussi sévère, aussi disproportionnée, le bannissement, l'exclusion des clubs, parce que compte tenu des impacts économiques que ça aurait eu, hein, pour eux, ça les aurait carrément évincés de toute compétition, et donc ça les aurait fait sortir du marché des compétitions de football, eh bien cette mesure d'exclusion aurait certainement été jugée disproportionnée et donc abusive. Il faut comprendre qu'en droit de la concurrence, l'UEFA n'est pas seulement une association de droit suisse. C'est une entreprise et compte tenu de son organisation, compte tenu du succès de ses compétitions également, elle occupe une position dominante sur son marché ou ses marchés. Et cette position, cette domination, lui interdit d'appliquer des mesures disproportionnée et donc abusive à l'égard de ses concurrents comme l'entité qui allait organiser cette Super League.
On a compris que les tenants de la Super League auraient eu des chances de l'emporter devant les tribunaux. La menace était donc très sérieuse. Alexandre Lacresse, est-ce que ça veut dire que l'UEFA aurait intérêt à revoir sa copie pour mieux tenir compte des intérêts de ses grands clubs ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que cet événement-là, cette menace de créer une ligue fermée en Europe, qui était quand même relativement bien préparée et même financée, hein, puisqu'on a appris que la banque JP Morgan était prête à apporter un soutien de plusieurs milliards d'euros au projet, il est clair que ça a eu sur l'UEFA un effet incitatif. Et j'ai envie de dire, c'est l'intérêt de la concurrence par les mérites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un concurrent qui arrive sur votre marché, où vous êtes en situation de monopole de fait, hein, concernant l'UEFA, et que ce concurrent arrive avec des innovations, des idées nouvelles, arrive avec un produit qui apparaît en tout cas de meilleure qualité ou qui en tout cas de qualité équivalente, et bien ça pousse l'entreprise historique finalement à proposer ou à améliorer son propre produit. Et c'est finalement ce qui est en train de se passer puisque apparemment l'UEFA réfléchit à revoir les systèmes de rémunération et de financement de la Ligue des Champions. Et donc finalement c'est la victoire de la concurrence au sens plein. Et je rajouterais de façon un peu malicieuse qu'en anglais, la concurrence se dit competition.
C'est devenu un chant des supporters à Chelsea, mais aussi à Leeds, lundi soir, juste avant le match contre Liverpool, membre des 12 traîtres. Avant le match, les joueurs de Leeds ont tous porté des t-shirts avec le slogan « Le football appartient aux fans » et on a pu voir dans le ciel un avion tirant une banderole avec l'inscription « Say no to the Super League ». En face, les tenants de la Super League faisaient profil bas, à l'exception du patron du Real Madrid. Sur Twitter, on pouvait tout de même voir quelques messages de soutien, en anglais surtout. « La Super League, c'est une super idée, ça va révolutionner le football. Je parle au nom de tout le monde en disant oui à la Super League européenne ». Sauf que ces messages, contenant ces éléments de langage, semblaient provenir de faux comptes et de robots, ont constaté des journalistes. Pendant ce temps sur Internet, le magazine SoFoot recycle la célèbre vidéo de danse avec un cercueil, devenu un mème, avec sur le visage des danseurs les logos des 12 clubs, les 12 traîtres, les 12 salopards, comme certains les appelaient sur Internet, ont perdu la bataille de l'opinion. C'est ce que j'ai demandé à Luc Arondel. Il est professeur associé à la Paris School of Economics, directeur de recherche au CNRS et auteur avec Richard Duhautois de « L'argent du football » paru en 2018.
Oui, ils ont perdu la bataille de l'opinion. Oui. Après, est-ce que la Super League ne se fera pas ? Ça, c'est une autre question. Disons qu'ils ont perdu une bataille. Est-ce qu'ils ont perdu la guerre ? Je ne sais pas.
Et vous pensez que ça peut revenir ?
Disons que si on regarde d'un point de vue économique, c'est un petit peu dans le sens de l'histoire, on va dire. Même y compris au niveau historique, bon, il y a quand même des évolutions qui font penser qu'il y aura peut-être une restructuration des championnats dans les années qui viennent. Mais d'un point de vue économique, un championnat européen peut justifier parce que voilà, vous avez la croissance du football depuis 30 ans, c'est accompagné d'un accroissement des inégalités entre les gros clubs européens puis les autres clubs, quoi. Donc, ce qui fait que ben, il n'y a plus trop de suspense dans les ligues domestiques, il n'y a plus trop de suspense au niveau de la Ligue des Champions, puisque finalement, à partir des huitièmes ou des quarts, c'est un peu toujours les mêmes. Donc, c'est vrai que bon, voilà, le fait de faire un championnat avec les plus grosses équipes européennes pourrait se justifier de cette manière, quoi. Alors après, sous quelle forme, c'est là qu'il faut discuter, quoi. Parce que la façon dont ils s'y sont pris, c'était quand même assez surprenant, quoi.
C'est-à-dire de partir à l'abordage comme ça de l'UEFA ?
Ben, y a deux choses qui n'allaient pas du tout. Un, c'est le fait de complètement s'asseoir sur la culture européenne de la promotion-relégation. Je pense que les gens, on l'a bien vu dans la fronde qu'on a pu observer des supporters, même des instances politiques, des instances européennes. On voit bien qu'il y a quand même le modèle du sport en Europe, c'est quand même un système pyramidal avec promotion-relégation. Donc, fermer complètement les ligues, c'est quand même pas notre culture. Ça correspond à une culture nord-américaine. D'ailleurs, c'est pas par hasard. Les clubs anglais, par exemple, sont détenus par des propriétaires américains qui n'ont pas forcément cette culture-là, quoi. Donc ça, c'est le premier élément, à mon avis, qui peut pas fonctionner en Europe. C'est le fait de s'asseoir sur 100 ans d'un système de promotion-relégation. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est aussi de le faire complètement à l'extérieur d'une instance sportive. Je pense que c'est difficilement imaginable de penser que le football peut être géré, notamment au niveau de ses règles, par un club privé. arriver, à mon avis, c'était complètement utopique, quoi. Parce que bon, les gardiens du jeu, c'est quand même les instances sportives, notamment l'IFA, par exemple, qui établit les règles du jeu. On l'a vu dans l'interview de Florentino Pérez, c'est-à-dire le fait de vouloir, comme ça, dire, bah oui, les matchs sont trop longs parce que les jeunes, ils regardent plus 90 minutes d'un match. Ça, c'était complètement lunaire, quoi.
Je ne suis dueño du Real Madrid. Le Real Madrid est un club de socios. Je, tout ce que je fais, c'est pour le bien du football. En ce moment, nous faisons ça pour sauver le football qui est en un moment critique.
Et le président du Real, qui était l'invité de l'émission El Chiringuito, lundi soir, il a expliqué vouloir sauver le football qui est à un moment critique face à la désertion des jeunes habitués au football sur console.
La conférence de presse de Pérez était complètement hallucinante, quoi. Voilà, comment peut-on gérer le foot en se basant sur un vague sondage, on ne sait pas d'où il venait, en disant que les jeunes ne s'intéressent plus au foot et qu'ils ne peuvent pas regarder 90 minutes de jeu. C'est vrai que c'est un peu court comme explication pour révolutionner le football européen.
L'une des clés, ça a été le comportement de la FIFA qui a marché main dans la main avec l'UEFA.
Je pense que voilà, alors les instances sportives ont vraiment réagi rapidement. Donc après, je sais pas trop, moi je suis pas dans le secret des dieux au niveau du conflit entre l'UEFA et la FIFA. Ce qui se disait, c'est que peut-être que la FIFA avait intérêt de cette Super League parce que ils voulaient faire un championnat du monde des clubs basé sur les Super Ligues continentales. Bon, moi je sais pas trop ce qu'il en était, mais en tout cas, bon, c'est vrai que l'UEFA et la FIFA ont réagi, voilà, en menaçant d'exclure les joueurs qui participaient à cette Super League. Alors, est-ce que légalement ça aurait été acceptable au niveau européen? Ça, c'est une autre histoire, mais ils ont quand même avancé un petit peu cette menace. Il y a aussi quand même la réaction de tous les supporters qui a été vraiment unanime. Et il y a aussi le monde politique, hein. C'est vrai que c'était difficilement imaginable de penser, par exemple, qu'au moment où on a construit la Ligue des Champions, qu'il y ait une réaction de Mitterrand et de Margaret Thatcher, quoi. Alors que là, on a vu Macron et Boris Johnson réagir immédiatement. Donc on voit bien que le football a pris une place dans la société qui a été sous-estimée par ces 12, comme vous disiez, ces 12 sécessionnistes, on va dire, pour être poli.
Vous avez été surpris, justement, vous, par cette opposition politique et plus largement par les supporters, les médias, les acteurs que sont les joueurs et les entraîneurs?
Moi, je ne suis pas du tout surpris par la réaction des supporters. Je me doutais bien que ça n'allait pas passer. Mais ce qui a été très, très surprenant, c'est la façon dont ils ont procédé, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont fait ça tout seuls dans leur coin, en ne consultant ni leur entraîneur, ni leurs supporters, ni leurs joueurs. Et donc, comment voulez-vous faire passer quelque chose? Ça montrait quand même une arrogance qui était quand même incroyable. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils puissent penser que ça passe comme ça, quoi. C'est quand même symptomatique d'une méconnaissance du football, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quand même des chefs d'entreprise, c'est des gens qui ont des grosses responsabilités économiques. Mais un club de football, c'est pas une entreprise comme une autre, c'est complètement différent. Et si vous voulez la gérer comme une entreprise, ça peut pas fonctionner, quoi. Donc, d'une certaine manière, c'est pas forcément étonnant qu'il y ait eu toutes ces réactions.
Super ridiculo, c'est le titre du journal espagnol Marca. Super flop, titre la Gazeta dello Sport. Économiquement, ce devait être la poule aux œufs d'or pour les clubs qui rejoindraient cette Super League. A contrario, est-ce que cet échec risque de laisser des traces dans les comptes de ces clubs?
C'est que déjà, bon, quand on regarde les comptes des clubs, alors même avant le Covid, hein, c'est quand même des clubs qui avaient quand même des pertes financières assez conséquentes. Je pense que le Covid n'a pas arrangé les choses. Donc c'est vrai que voilà, malgré que ce soit des clubs qui ont des chiffres d'affaires bon, parmi les plus hauts en Europe, hein, puisque les 12 font partie des 20 clubs les plus riches en Europe selon les classements de droite, mais voilà, il faut séparer ce qui est le chiffre d'affaires, ce qui est la rentabilité. Parce que bon, en général, les clubs de foot ne sont pas rentables.
Oui, mais ça pourrait détourner des supporters.
Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'aspect... je pense que vous parliez du côté économique.
Bah, c'est-à-dire que des gens qui vont moins acheter de maillots, qui vont peut-être moins dépenser d'argent autour des clubs.
C'est vrai que d'un point de vue com, je pense que ça a été assez catastrophique. Et imaginez qu'il y ait du monde dans les stades ce week-end. Déjà qu'on a vu en Angleterre, il y a eu quand même des réactions des supporters à l'entrée des joueurs dans le stade de Chelsea, etc. Mais c'est vrai que vous imaginez Bernabéu avec tous ses supporters. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a un côté un peu ridicule.
L'UEFA a présenté cette semaine une nouvelle mouture de la Ligue des Champions, plus ouverte encore aux autres pays. C'était l'un des engagements de son président. Est-ce que l'UEFA devra quand même faire un geste en direction de ses clubs en matière de répartition, notamment des fruits de la Ligue des Champions, après cet avertissement quand même pour l'UEFA que la volonté de créer cette Super League?
La menace de la Super League, c'est quand même quelque chose qui est récurrent depuis le début des années 2000, même de la fin des années 90. C'est quand même une menace qui apparaît de manière récurrente. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, s'était dit que c'était toujours un point de menace et puis que l'UEFA avait fini toujours par céder pour accorder une part de plus en plus importante aux clubs donc qui performaient en Ligue des Champions, quoi. Donc quelque part, ça c'est pas nouveau. Alors du côté de l'UEFA, c'est pareil, je suis pas dans le secret des dieux, mais a priori il y aurait aussi une négociation avec un nouvel acteur qui se traduirait par une hausse des droits de diffusion. Donc ça, je sais pas où ça en est aujourd'hui, hein. De toute façon, le cœur de la négociation, c'est de savoir combien les clubs récupéreront de cette manne financière, quoi.
On parle beaucoup d'une victoire du football aujourd'hui contre les puissances de l'argent, mais l'argent va quand même rester la pierre angulaire du football?
Non, mais là, faut pas être naïf non plus. C'est pas une victoire du foot populaire contre le football business. Voilà, il y a toujours eu de l'argent dans le foot. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. C'est pas non plus astronomique non plus, même si les gens le pensent, hein. Donc voilà. Non, s'il y a un échec, hein, c'est le fait d'avoir voulu s'asseoir un petit peu sur la culture européenne du foot. C'est aussi la volonté de faire sécession entre les clubs les plus huppés financièrement et puis les autres, quoi. Donc c'est surtout ça, quoi. Dire que c'est une victoire contre le foot de l'argent, non. Il y a qu'à voir un petit peu le budget qui correspond à la Ligue des Champions. On voit bien que voilà, ça représente quand même beaucoup d'argent, quoi. Donc faut pas rêver, hein.
Merci Luc Arondel, professeur associé à la Paris School of Economics et auteur avec Richard Duhautois de L'argent du football. Merci aussi à Alexandre Lacresse du cabinet Fidal. Merci à David Barou, rédacteur en chef aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann et arbitrée par Michel Varnet, chargé de production et d'édition. Vous pouvez nous suivre sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. L'actualité du sport business, c'est à suivre aussi sur leséchos.fr.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.